بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Toutes les louanges et les remerciements reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous accepte ce soir. On va dire malgré les circonstances un petit peu attristantes de cette salat sur notre frère qui nous a quittés. Malgré ça, on essaie de donner 10 minutes pour étudier le nom d'Allah, Al-Shifa. Comme on le fait régulièrement quand il y a un décès dans la masjid et qu'on a prié sur le défunt, je pense qu'il est important qu'on se rappelle de toutes les bonnes choses que cette personne a fait durant sa vie. Sans dévoiler bien sûr les actions cachées sur le plan social et subhanallah sur un plan beaucoup plus personnel, le tonton qui nous a quittés, c'est lui qui a toujours été à mes côtés pour l'organisation de séminaires pour les jeunes, ce qu'on appelait avant Joanne et Mohabbat, c'est pour ceux qui s'en souviennent et tout, tout était son organisation, la logistique, l'accueil concernant les repas et tout, donc rien n'aurait pu être fait sans son aide. Qu'Allah Azza wa Jalla, qu'Allah Rabbul Izzah accepte son sa'i, son passage de ce dunya, que là à cet instant, subhanallah, il y a des choses extraordinaires qui se passent. À cet instant, on a porté le corps de notre frère, on l'a sorti de la masjid et là il est dans un camion et on l'amène au maqbara, qabrastan, au cimetière. De ce camion, il y a qui rentre le camion? Les proches, la famille proche. Vous avez déjà été de ce camion fermé? Ça ne donne pas envie. Il fait noir. Vous êtes très mal, même pas assis. Vous êtes debout, vous tenez, je ne sais pas comment. Et vous savez que vous avez un maillette avec vous. Et que voilà, c'est une ambiance qui est difficile, attristante. Et donc les proches vont l'amener au maqbara. Et qui vont l'accompagner également? Ses amis. Et là, ça nous rappelle le hadith dans lequel le prophète alayhi salat wa salam dit yatba'u al-mayyit thalatha. Il y a trois choses qui accompagnent le défunt. C'est. Non, on commence par sa famille, ses amis et ses actions. Il y a trois choses qui accompagnent le défunt, sa famille, ses biens et ses actions. Et donc là, on va le retirer, Allah yarhamhu, du camion. D'autres frères vont le porter, vont l'amener jusqu'au trou qui a été creusé. Vous savez, je fais ce chemin tous les jours en passant après Maghreb. Donc on voit près de boulevard Lancastel, on voit la lumière, on voit à peu près les gens qui sont en train de creuser. On vous a dit que subhanallah, ils sont en train de préparer la demeure de cette personne, celui qui faisait la salat à côté de nous, qui nous côtoyait, avec qui on passait des moments, discuter. On se dit que subhanallah, ce dunya, c'est les choses peuvent changer d'un instant à l'autre, d'un moment à l'autre. Donc là, tu vois des frères qui sont en train de creuser son qabar, sa tombe, et tu te dis qu'un jour, il y a des gens qui passeront près du cimetière et qui verront ta tombe en train d'être creusée. C'est ce qui va arriver, oui ou non? C'est ce qui va arriver un jour. En espérant qu'Allah reprend notre âme dans la vie sainte du prophète alayhi salatu wassalam, ce qui est le doua de tous les croyants. Allahumma amin. Et donc, qui va descendre à la tombe? Qui descend à la tombe? Les proches, son fils, son frère, les gens qui lui sont très proches, le sang, les relations de sang. Quelqu'un est déjà descendu dans une tombe? Moi, je ne suis jamais descendu dans une tombe. Jamais. Mais je m'y prépare. On a des personnes âgées dans la famille et c'est la sunnah d'Allah que le nafsin da'iqatul maut. Alors, lorsque son mayet, son corps sera posé dans la tombe, les frères qui seront présents, ensuite on va l'enterrer en lisant minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Et après l'enterrement, les gens vont se recueillir, vont faire doua pour lui. Et là, le prophète alayhi salat wa salam dit que, on revient au hadith tout à l'heure, il y a ses biens, sa famille et ses actions qui sont toujours avec lui. Et quand la personne est enterrée, la famille retourne là où elle était, et les biens retournent, parce que les biens ne lui appartiennent plus. Ses biens, maintenant, entrent dans le cadre des maslas de miraf. Comment traduit miraf? L'héritage. Ce sont ses enfants, ses proches qui vont donc hériter de ses biens. Et donc la famille, elle ne reste pas. Vous connaissez quelqu'un qui est resté sur la tombe d'un défunt jusqu'à ce que lui-même meure? Même pas dans des fables ou des contes. Non. C'est Sunnatullah, le monde des vivants, c'est le monde des vivants. Le monde des morts, c'est le monde des morts. Et donc, il restera que ses a'mal, que ses actions. Ce hadith-là, on l'a entendu combien de fois? 50 fois, 100 fois. C'est un hadith qu'on connaît, c'est un hadith qu'on commence à citer, on peut compléter, tout le monde peut compléter, parce qu'on l'a entendu mille et une fois. Haqiqa, c'est autre chose. La réalité, c'est autre chose. La réalité, c'est quand on a un père qui meurt, ou une maman, ou un proche, et qu'on se rend compte vraiment, voilà, que voilà mon père, ou ma mère, ou mon grand-père, mon oncle, peu importe, c'est quelqu'un qui possédait des biens, il avait, mashallah, il a construit, il a loué, il a sous-loué, il a eu des choses, ainsi de suite, il a des biens, et qu'on se rend compte que finalement, je l'ai enterré avec un linceul. Là, c'est une première prise de conscience. Mais cette prise de conscience, tiens, elle est violente, mais elle est nécessaire. Parce que l'autre prise de conscience, ce sera de façon éveillée ou non? Active ou passive? Passive. C'est quand on te donne ton recel. Et vous savez que le défunt entend et voit, il est conscient. Quand il sent les gens qui transportent son corps, qui donnent son roussal, qui est en train de l'emballer, il voit les gens qui pleurent autour. C'est pour ça qu'il n'est pas conseillé de pleurer excessivement autour du défunt. D'accord? Et donc là, le prophète alayhi salat me dit que la seule chose donc qui accompagne le défunt dans sa tombe, ce sont ses a'mal, ses actions. Des paroles d'une simplicité, une réalité, un enfant de la madrasa pourrait nous dire la même chose. Mais est-ce que nous comprenons la profondeur de cette parole? Et quand le prophète dit que ses actions, est-ce qu'il s'agit que de ses bonnes actions? C'est quoi ton prénom encore? Oui, tu étais mon élève avant toi, non? Oui, tu avais moins de cheveux par contre. Benjamin, oui. Quand on dit ses actions l'accompagnent dans la tombe, ce sont que les bonnes actions?
Non, les mauvaises aussi.
Ah, j'allais presque dire malheureusement les mauvaises aussi. J'allais presque dire malheureusement les mauvaises aussi. Les bonnes actions, mais aussi les mauvaises actions accompagnent le défunt dans sa tombe. Les mauvaises actions pour lesquelles il n'a pas demandé Tawbatun Nasuha, ou les mauvaises actions pour lesquelles il n'a pas accompli certaines a'mal qui étaient accessibles à tout le monde et qui normalement effacent tes péchés. Allah, dans sa grande clémence, nous donne la possibilité de faire les ablutions. Et vous savez que quand on fait les ablutions, les péchés coulent. C'est rien ça, hein? C'est rien, mais en même temps, c'est pas rien. Cette ablution, ça prend 15 secondes, 20 secondes. À moins qu'on ait des tocs et qu'on fait 5 fois vos ongles en namaz, ça aussi, ça existe. Mais ça prend un instant, ça. On fait les ablutions, c'est une action qu'on répète. On a, combien de vous autres t'as fait de ta vie, Sajid? Au moins 12 000. Ou, je dis n'importe quoi, 100 000, je sais pas. D'accord? Haqiqa, réalité, yaqin, c'est qu'à chaque fois que tu les ablutions, il y a des péchés qui s'en vont. Ça, c'est rahmat d'Allah, qui nous permet d'évacuer les péchés. Parce qu'Allah, Azza wa Jal, de sa clémence, sa grandeur, sa puissance, il connaît comment l'être humain fonctionne. Et que l'être humain, du matin jusqu'au soir, il finit par accumuler des petits péchés. Ça greffe. Et si jamais on devait rencontrer Allah avec tous ces petits péchés, ce serait une catastrophe. Et donc Allah, dans sa clémence, a légiféré des actions qui nous permet de nous vider de ces sayyi'at, les ablutions. La salah, le prophète alayhi salat wa sallam dit que les prières accomplies d'une salah à l'autre effacent ses péchés comme une personne qui se baigne dans un fleuve 5 fois par jour. Est-ce que à la fin de cette journée, il y a encore de la saleté sur son corps? Des métaphores parlant. Des exemples qui sont très clairs. Un enfant peut comprendre. Et à nous d'intégrer l'importance. Quand je vois, j'entends des gens philosopher sur les prières, est-il obligatoire ou c'est juste un lien de cœur avec Dieu? Il y a des choses plus importantes. Il y en a qui disent qu'on va aller que dans le social. Ils font plein de bonnes choses, plein de bonnes actions, des projets qui sont intéressants. Mais la masjid, la salah, c'est pas trop le truc. Non, réfléchis. Ce sont des a'mal. C'est un devoir envers Allah, mais c'est également des actions qui vont t'épurer de tes péchés. Je referme cette parenthèse. Donc prise de conscience que quand on est posé dans notre tombe, il y a uniquement nos a'mal, nos bonnes actions, mais également malheureusement nos péchés pour lesquels j'ai pas pu faire quelques actions simples qui auraient pu permettre à la personne de se vider et de vider son livret de compte de ses petits péchés. Et donc là, je sais pas si c'est Hassan al-Basri ou c'est une citation, c'est pas un hadith, hein, c'est une citation. Je crois Hassan al-Basri dit que la pire des nuits, c'est la première nuit que tu passes seul dans ta tombe. Quelque chose, ça, quand même. Hein? Il ne faut pas croire que quand on est mort, on est inconscient. Hein? Ça, c'est le langage des scientifiques. quand la personne est morte, c'est fini. Elle est inerte, il n'y a plus de réaction parce que le cerveau ne fonctionne plus. Mais nous, nous savons que le corps humain fonctionne. Bien sûr, le cerveau, ça coordonne le sang qui pompe, le cœur, pardon, qui pompe le sang et tout. Mais ça, c'est le mécanisme, ça. D'accord? Mais avec tout ça, il y a. Il t'interroge sur l'âme. Trop fort pour nous, ça. Il n'y a pas de réponse pour ça. Le ruh, c'est quelque chose qu'Allah seul sait. Comment ça se passe? C'est quelque chose qui est extraordinaire, l'âme. Le ruh, scientifiquement, il n'y a aucune preuve. Ils ne pourront jamais comprendre comment ça marche. C'est quelque chose de tellement extraordinaire que quand tu dors, ton âme monte au ciel et redescend. Alors, je fais une petite parenthèse. Il y a un tchatcha qui dit, il m'a mis un problème prostate. Le soir, il lève 5 fois, 6 fois, 10 fois par les toilettes. Allah yashfi. D'accord? Il dit, oui, mais là où veut dire, maman, il sait, mon âme, il monte, il sonne, mon âme, mais combien il monte, il sonne comme ça, là? Il dit, ce sont des choses qui n'appartiennent pas au monde du réel. Ce sont des choses qu'on ne peut pas comprendre. Personne ne nous a demandé de comprendre comment ça se passe, l'âme monte aux cieux, redescend, et ainsi de suite. Ce sont des choses qui nous dépassent. Bref, je referme cette énième parenthèse. Et donc, la seule chose qui reste, qui accompagne, je clôture avec ce hadith, qui accompagne le défunt dans sa tombe, ce sont ses actions. Donc, nécessité de prise de conscience de l'importance de bonnes œuvres, mais également d'abandonner tout ce qui est haram, tous les péchés. Abandonner, mais vraiment. On va dire que oui, j'ai du mal à faire plein de bonnes choses, d'accord. Ça arrivera un jour, Inch'Allah. Ça arrivera le jour où tu pourras faire ton tahajjud, ton qiyamul layl, tu pourras donner l'aumône tous les jours, tu pourras faire un khatm al-Qur'an tous les 10 jours, ça viendra, Inch'Allah. Et demande donc qu'Allah t'accepte dans ce sens et pour ça. Mais ce que tu peux faire là, immédiatement, ferme les portes et les fenêtres de tous les péchés. Comme ils sont en train de fermer les portes et les fenêtres de la masjid, ferme toutes les portes et les fenêtres des péchés. Ferme la porte des péchés de tes yeux, ferme la porte des péchés de tes oreilles, ferme la porte des péchés de ta langue, de ta bouche, de ta langue. Fais en sorte de ne pas aller vers le zina. Fais en sorte de ne pas penser au zina. Fais en sorte de ne pas faire du mal avec tes mains, de ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la dignité d'une personne. Pas de riba, pas de bohtan, pas de namima. On pourrait citer une liste de 50 ou 70 péchés. Essaie de te protéger. Et tu ne dépends de personne. C'est pas comme on dit, Sabir, voir moins un tel. On n'en a rien à faire des gens qui nous observent. On ne vit pas pour les gens, on vit pour Allah. On vit pour Allah. C'est pas que j'habite au centre-ville, ils vont voir que je viens pas à la salah ou que la salah a commencé, je suis dans mon commerce, j'ai pas fermé mon panneau et tout. C'est pas ça qui compte. C'est le regard d'Allah sur toi. C'est la seule chose qui doit être importante, hein, à nos yeux. Donc, verrouiller tout ce qui peut nous faire glisser vers le haram et vers le péché, parce que ces péchés-là, on risque de les amener dans notre tombe. Et ça risque d'avoir des conséquences dans la tombe, sans ouvrir le chapitre sur la tombe qu'on avait abordé à Montreuil, hein, à une certaine époque, avec un excellent livre de Ibn Abdil Barr qui est traduit en français concernant la tombe. Et donc, ça c'est une première leçon. Quand on voit un proche qui part, on réalise que voilà, ce qui est avec lui maintenant, ce sont ses a'mal. Deuxième hadith, et puis on va clôturer, même si on ne fait pas l'étude des noms d'Allah, on aura partagé un moment de spiritualité. Et moi, ce qui est important à mes yeux, c'est que je sais que quand l'assemblée est terminée, les anges, ils annoncent à Allah qui était présent et qu'à la fin, nos péchés sont pardonnés. Pour moi, c'est déjà une victoire. Nos péchés sont pardonnés, nos petits péchés. Et comme j'ai dit à Montreuil la semaine dernière, et selon le hadith d'Imam Ahmad ibn Hanbal, donc le Mousnad, les péchés de ces personnes, nous, Luqman, Ibrahim, Junaid, Sajid, Ilyas, nos péchés sont transformés en bonnes actions. Comment est-ce possible? C'est trop? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que c'est pas une parabole? Est-ce qu'on n'exagère pas? Non, on n'exagère pas, ça c'est la promesse de le prophète alayhi salat wa salam. Et il ne lui dit rien de lui-même, c'est ce qui vient d'Allah. Ça prouve la karam, la générosité d'Allah Azza wa Jal. Ça prouve son rina, sa richesse. Allah donne et son trésor est inépuisable. C'est Allahu Akbar. Allah peut nous donner quantité. Il faut juste. Là, on s'est mis dans une condition de bonnes actions. Et on remercie Allah. Juste pour ça, il faut faire deux rakats de shukr. Qu'Allah m'ait permis, moi en premier, et nous tous, d'être assis et partager 15 minutes de spiritualité où on parle de l'amour d'Allah, de la crainte d'Allah, du retour vers Allah, on est déjà gagnant. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on ne va pas démarrer le chapitre sur Al-Shifa. Deuxième hadith, après un enterrement, le prophète alayhi salat wa sallam était resté un moment au maqbara, au cimetière. Et on parle de quel cimetière, Hudhaifa? Al-Baqi'. Le nom complet, c'est le nom complet. Celui qui trouve l'aura, Inch'Allah. Bien essayé, tonton. Baqi' al-Gharqad. C'est moi qui l'aura, Inch'Allah. Après ceux qui veulent me suivre. Qu'Allah nous l'accorde. Ça doit être un souhait, ça. Allahumma rizqni shahadata fi sabilik. Ou Allah, accorde-moi le nœud de mourir dans ton chemin. Ou amitni fi baladi rasulik. Doua de Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Et donne-moi la mort de le pays de ton prophète, c'est-à-dire à Al-Madina al-Nabawiyya. Ça doit être le souhait de chaque croyant. Donc, le prophète alayhi salat wa salam est dans le baqiya. J'attire votre attention sur le lieu pour qu'on réalise qu'on n'est pas dans un cimetière où il y a des gens comme nous. J'ai dit des pêcheurs, des gens comme nous. D'accord? On est dans le baqiya, le cimetière de Madina, et c'est pas le Madina de 2022. C'est le Madina de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, dans ce maqbara, il y a qui y allait? Les sahaba. Et donc, le prophète alayhi salat wa salam attend que les gens s'éloignent. C'est ce qui se passe. Combien de temps vous allez rester sur la tombe de votre père à pleurer? Combien de temps vous allez rester sur la tombe de votre grand frère? Combien de temps? 15 minutes? 30 minutes? Une heure de temps? Après, on est, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes rappelés vers le monde des vivants. C'est comme ça. Et donc, quand les gens se sont éloignés, le prophète alayhi salat wa sallam dit aux sahaba, tout le monde connaît le hadith? Tout le monde connaît le hadith. Oud'ou li akhikum bithabat. Mais les termes en arabe, c'est très beau. Oud'ou li akhikum bithabat. Invoquez Allah pour votre frère. Et al-thabat, on connaît peut-être la racine. Allahumma thabbitna ala l'iman. On connaît le doua. Oh Allah, donne-nous la fermeté et l'ancrage, la force dans la foi. Donc demandez à Allah, invoquez Allah pour votre frère, qu'Allah lui accorde la fermeté. Oud'ou li akhikum bithabat. فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلْ. Parce qu'à cet instant, à l'instant présent, les anges sont en train de lui poser les questions. Chose qu'aucun être humain ne peut voir. Mais le prophète sallam, lui, a eu cette révélation de la part d'Allah que c'est maintenant que les anges viennent d'arriver. C'est pas que les anges étaient ailleurs, ils étaient en route. Non, ils attendent un moment précis, quand, comment, de quelle façon. وَاللَّهُ أَعْلَمْ. Et nous le saurons bientôt, nous. Mais on le sait qu'une fois. On le sait qu'une seule fois, quand c'est notre tour. Et donc, le prophète dit, Oud'ou akhikum bithabat, invoque Allah pour votre frère, qu'Allah lui accorde la fermeté. La fermeté dans quoi, Junaid? La fermeté dans quoi, Sajid?
Réponse aux questions.
Eh oui, réponse aux questions. Nourdin, est-ce que ce sont des questions très compliquées?
Non.
Mar rabbukum, ma dinukum. Que connais-tu à propos de cet homme? Marabukum? Madinukum? Religion? Et qu'est-ce que tu connais à propos de cet homme en parlant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Un enfant de classe 3, de classe 2, un enfant de 5 ans, 6 ans, il dit, mon Seigneur, mon Dieu, c'est Allah, mon prophète, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ma religion, c'est l'islam. 20 sur 20, examen premier de la classe, bravo. On se dit que le marmaï, il est prêt depuis 5 ans, il est prêt à répondre aux questions de la tombe. Ah non, c'est pas aussi simple que ça. Là, c'est pas la langue qui parle. Hein? Quand les anges posent des questions dans la tombe, ce n'est pas la langue qui parle. Ce n'est pas un son qui sort de notre bouche qui est masmour, qu'on peut entendre. Non. Qu'est-ce qui parle? C'est le cœur. C'est ton iman. C'est la réalité de la foi. J'ai une pensée pour mon ami Shuaib, Adam, quand on était jeune et que. Il me disait que dans la tombe, c'est comme une éponge. Qu'est-ce que tu as absorbé avec cette éponge? Des choses correctes, des choses mauvaises. Quand tu perces, qu'est-ce qui ressort? C'est un exemple qui est bien, c'est parlant. Mais en fait, dans la tombe, c'est ça qui ressort. Qu'est-ce que tu as réellement cumulé comme réalité? Qu'est-ce qui est rentré de ton cœur? Est-ce que tu as vécu pour Dunya, pour Allah Musta'an, des choses qui ne sont pas correctes pour le croyant? Ou alors ton... Toute ta vie, c'était ficar pour ton iman. Moi, je le dis, je le redis. On doit être obsédé par notre iman et par le regard d'Allah sur nous à chaque instant. Et quand je dis chaque instant, je veux dire, c'est tout le temps. C'est pas quelques fois par jour, ça doit être en permanence. Est-ce que là, je suis sur le droit chemin? Est-ce que Allah est content de moi? Est-ce que j'avance? Est-ce que si là je quitte ce monde, est-ce qu'Allah m'accepte? Est-ce que mon parcours est satisfaisant pour Allah? Ça, ça doit être la préoccupation du croyant à chaque instant. Quoi que les gens disent de toi, laisse-les. Quoi que les gens fassent comme action et tout. Si tu peux ramener les gens vers le haq, alhamdulillah. Si tu peux leur faire la da'wa, alhamdulillah. Mais en premier lieu, tu dois te sauver, toi. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum. En premier, c'est ta propre personne. Ensuite, wa ahlikum, ta femme, tes enfants, tes parents, tes frères, tes soeurs, neveux, nièces, du plus proche au plus éloigné. Wa ahlikum nara. Protégez-vous du feu, qu'Allah nous protège du feu. Donc, ikhwani, ikhwat fillah, l'essentiel, c'est d'avoir cet état d'esprit où, de façon permanente, on se remet en question. On analyse notre niveau de iman et être prêt, toujours être prêt. Quel que soit le moment où l'ange de la mort vient prendre mon âme, je dois être prêt. Ça ne doit pas être quelque chose, ça ne doit pas être cette situation où on regrette, où on se dit qu'on aurait dû faire ça, etc. Et donc, pour revenir à ce hadith, ce deuxième hadith, Allah seul sait à quel moment les anges commencent à poser les questions. Ce sont des questions simples, mais ce n'est pas la langue qui va répondre, c'est le cœur qui va répondre. En fonction de notre sa'i. Inna sa'iyakum la shatta. On est dans quelle surat? Wallayli idha yakhsha. Inna sa'iyakum la shatta. Le sens du verset, c'est que, le sens, hein, ce n'est pas la traduction, vous prenez des chemins différents. Il y en a qui vont faire beaucoup de bonnes choses, il y en a qui vont faire de mauvaises choses. Et en fonction de ça, on meurt. En fonction de ça, l'ange de la mort nous vient par rapport à notre vécu. Soit un ange d'un aspect extraordinaire, soit un ange, Allah protège. Et dans les commentaires de hadith, ou c'est hadith même qui dit que la simple vision de l'ange de la mort, sous sa plus belle apparence pour le croyant, c'est suffisant comme récompense pour toute sa vie de bonnes œuvres. C'est une consécration de magnifique. Et pour la protège, celui qui était dans le péché ou dans le kufr, de le shirk, la vision de l'ange de la mort, c'est suffisant comme azab. Qu'Allah nous protège. Naam. Inna sa'yakum la shatta. Donc, à nous de choisir. Hein, ça, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Nous avons la possibilité de prendre des décisions. Comme on l'a dit tout à l'heure, on peut dire non au péché. On peut définitivement arrêter le haram. Si c'est une relation extra-conjugale que j'ai, si je suis en concubinage avec une femme et que je suis de l'Islam, j'en connais. Enfin, on n'est pas là pour machin. Mais on connaît tous, malheureusement, des personnes qui ont la foi, qui font leur salat, mais voilà, ils sont avec telle personne. Il n'y a pas de nikah. Ben, il faut se prendre en main, en fait. Il faut agir, il faut faire en sorte qu'on ne reste pas dans le péché. C'est peut-être personnel, j'hésite. Notre frère était très malade. Il avait des problèmes de santé depuis plusieurs mois, où on parle même d'années. Et ce qu'on doit retenir, c'est lorsqu'Allah Azza wa Jal veut du bien pour une personne, Allah Rabbul Izza lui envoie des épreuves. Allah lui envoie des épreuves. Et parmi les épreuves, il y a la maladie. La maladie fait partie des épreuves. Et quand Allah envoie ce genre d'épreuves, c'est que Allah Rabbul Izza veut te nettoyer. Vu que quand tu quittes ce dunya, quand tu quittes ce monde et que tu reviens vers lui pur, épuré de tes manquements, de tes péchés, parce que tout être humain accomplit des péchés. D'accord? Et c'est ça le sens que le croyant doit donner aux épreuves. Et principalement au problème de santé, c'est que la maladie, c'est une épreuve qui peut être ponctuelle, permanente, longue, Allah seul le sait. Mais quand Allah nous éprouve, et on ne souhaite pas être éprouvé, hein, mais quand on voit que quelqu'un a quitté ce dunya après des années et des années de difficultés, de maladies, rentrer à l'hôpital, ressortir, des interventions, des choses difficiles, on sait que ça, c'est la rahmat d'Allah pour cette personne. On peut se dire que oui, miskin, bicharo, comment il souffre et tout. Oui, d'un regard humain, la famille, on est attristé tout pour ça. Mais après, mais ce recul-là, on ne peut pas l'avoir. C'est difficile d'avoir ce recul-là. Mais si on a un recul, une vision globale, dunya akhira, on se dit que finalement, cette personne-là, elle est bénie par Allah. C'est une bénédiction, ça. Allah est en train de le nettoyer de ses péchés pour qu'il retrouve son Seigneur sans qu'il y ait le moindre péché dans son livret d'action. Dans un hadith, le prophète alayhi salat wa salam dit que man yazal al bala bil 'abd al mu'min, que des fois l'épreuve accable le croyant, le touche, et ce sont des problèmes de santé ou autres qui sont permanents. Hatta يلقى الله وما حتى يمشي على الارض وما عليه من خطيئه, jusqu'à arriver à un tel point que cette personne elle vit parmi nous et dans son livret de péché il n'y a pas un seul péché, parce que même si péché il accomplit des petites erreurs de la journée, tout est automatiquement nettoyé et vidé à cause de du problème de santé ou des épreuves. Donc ça nous permet également d'avoir une compréhension, une vision des choses. Et le hadith de clôture, je vous retiens, mais pour terminer avec ça, dans un hadith, il est stipulé que le défunt qui a été accepté par Allah, qui a passé une vie de ta'a, de bonnes actions, d'une vie d'obéissance, quand il voit ce qu'Allah lui a réservé, déjà en voyant l'ange de la mort, et quand il est posé dans sa tombe, il voit, qu'est-ce qui se passe dans la tombe? Il y a une fenêtre du Jannah. N'allez pas parler de un géologue ou un scientifique, une fenêtre du paradis à 2,5 mètres sous terre. On voit bien qu'on parle du monde du rêve, de l'invisible. Une fenêtre du Jannah, un parfum du paradis. Qu'Allah nous l'accorde tout ça. Une tombe qui devient, pour moi c'est la métaphore la plus parlante, qui nous permet de comprendre la différence entre dunya et monde de l'invisible. Si on redétait, on dit est-ce que la tombe c'était large? Non, la tombe est toujours pareille. Mais ce sont des réalités qui se passent dans le monde de l'invisible. Et donc il dit que cette personne qui a été agréée par Allah, qui voit, qui goûte les premiers ni'mas, les premiers résultats de ses bonnes actions, de sa vie de salat, de Coran, de hajj, de umrah, ainsi de suite, si on lui proposait, hadith authentique, si on lui proposait de revenir de ce dunya, de retrouver sa femme, ses enfants avec les ni'mas et beaucoup plus de bienfaits qu'il avait avant, jamais cette personne n'accepterait de retourner. Nous, on se dit que si seulement Dada était pour revenir, si seulement Nana était avec nous, Nana pas là écou, il est plus là écou, mais rien à faire. Il ne connaît plus où. Il veut bien te voir, mais dans le Jannah. Mais pour l'instant, non. Retourne de ce dunya, monde d'épreuves avec problèmes et ainsi de suite. Il a déjà goûté au premier ni'ma, il est auprès de son Rabb. Et il accepte et il est content. Qu'Allah nous accorde cette joie, ce contentement un jour. Et qu'Allah l'accorde à notre frère qui nous a quittés et accorde sabrun jamil, la belle patience à son épouse, à son fils et à l'ensemble de sa famille. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.